me propose de... Vous attendez comme ça?
Oui.
Je me propose de commencer d'abord le début de la paracha concernant la mitzvah, concernant la vache rousse, la para aduma, et ensuite le reste du temps, j'étudierai encore un deuxième épisode. C'est l'épisode où Dieu va annoncer à Moïse et à Aaron qu'ils n'entreront pas en Eretz Israël à cause de la péripétie, disons, des eaux de Meriba. C'est bien Meriba cette fois-ci, on va voir ça tout de suite. Oui. Lorsque le peuple a demandé de l'eau, que Dieu avait demandé à Moïse de parler au rocher, et au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé le rocher. Et c'est très paradoxalement pour cela, apparemment, ce qui à nos yeux pourrait apparaître comme un modèle, puisque la première fois, Moïse avait reçu l'ordre de frapper le rocher. Et que de toutes les façons, cette fois-ci, comme vous l'avez dans le texte, Dieu avait demandé à Moïse de prendre le bâton. Pourquoi faire si ce n'était pas pour frapper? Donc c'est un épisode, une péripétie assez difficile à comprendre, à suivre en tout cas. Et c'est là que Dieu a demandé à Moïse et à Aaron de ne pas entrer, de décréter qu'ils n'entreront pas en Eretz Israël. Alors j'attends tout le monde est à lire. Et alors s'il nous reste du temps après la première partie, j'espère, nous verrons ce deuxième sujet, à moins que quelqu'un ait un autre passage de la Torah à vouloir étudier. Je vous attends jusqu'à ce que j'ai pris un peu d'eau, mais est-ce que ça va le... T'es sûr là-bas aussi? Parce que je vous vois inquiet comme ça. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un sujet à étudier particulièrement? Je vous répète, ça ferait plaisir que vous me posiez des questions. Parce qu'un bêta-midrash sans questions, c'est un bêta-midrash avec trop de réponses. Ne soyez pas impressionnés comme ça.
D'abord, des manikins, Myriam, Aaron et...
La mort.
C'est des manikins.
Ça fait partie un peu du coup.
Ah, c'est la même chose.
Oui, ça fait partie, c'est pas la même chose.
Myriam meurt, après c'est Aaron, et ensuite, par la faute de l'eau.
Oui.
Mon chéton, on lui en a...
Par la faute de l'eau, mettons ça entre guillemets.
Entre guillemets.
Parce qu'en fait, je vous dirais, je n'aurai pas le temps de faire de l'érudition, il y a toujours une littérature sur ce problème. En réalité, on ne sait pas pour quelle faute Moïse n'est pas rentré dans le pays. Il y a à peu près 18, je pense, hypothèses différentes, 18 réponses différentes. Il y a en particulier un livre que j'ai étudié depuis très jeune, Big Deshesh, un livre très rare. Je l'ai prêté à un de mes élèves, mais comme ils sont très nombreux, lire Aïnara, le livre n'est pas revenu. Big Deshesh, je sais pas, il vient d'être réédité d'ailleurs, je pense, à Jérusalem. C'est un haram de Debdou, un Debdoubi. Qui a écrit ce livre, et le premier chapitre est consacré à ce problème. Pour quelle raison Moïse n'est pas rentré en Eretz Israël? Nous allons étudier l'histoire du rocher, mais c'est plein d'invraisemblances tout ça. Là, je vous dirai tout de suite, en le rappelant, parce que c'est quelque chose de familier, je suppose, pour vous, la vraie raison est donnée par le Midrash, enfin la raison la plus vraisemblable est donnée par le Midrash, c'est que Moïse, c'est l'homme de la révélation, de sagesse pour la génération du désert, qui était en dehors de tout problème de société humaine classique. Il n'y avait pas de problème économique, parfois, ce que tu as dit, grâce à la manne qui tombait dans le désert. Imaginez la situation de ces générations du désert. Ils avaient comme chef Moshe Rabbeinu, comme prêtre Aaron et Cohen. C'était la génération de la révélation. Ils ont vu tous les miracles. Est-ce qu'ils les ont compris? Est-ce qu'ils ont vraiment vu? Ça, c'est notre problème. Je vous ai cité un des cours récents, l'enseignement du Ohachaim, de Abraham Ben Attar, que si cette génération, la génération tout entière, n'est pas en train d'aller à Israël, c'est ça, on étudie dans le début de la paracha de Vayera. C'est parce que la cinquième promesse et je vais vêtir très mal à Arendt et je vous amènerai au pays, avec une condition. Vous saurez que c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Et comme cette génération n'a pas compris que c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, ils croyaient que c'était Moïse qui les a fait sortir d'Égypte. C'est pourquoi il y a, je ne sais pas si vous voyez les incidences, je crois que j'en ai parlé sur le dernier, où je critique, les implications contemporaines. Ceux qui ne voient pas que c'est Dieu qui nous a amenés, ils croient que c'est le sionisme. Alors ils sont anti-sionistes. Mais s'ils étaient, s'ils avaient les yeux ouverts, libérés que, pour les croyants en tout cas, si ce n'est pas Dieu qui nous a amenés, qui c'est qui nous a amenés. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et alors, c'est le drame de la génération du désert. C'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, à travers Moïse. Mais il est interdit de croire que c'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est cette erreur de la génération du désert. Je vais vous dire le signe, en m'appuyant sur l'enseignement du Gaon de Vilna, qui a mis en évidence que dans tout le récit de la Agada de Pessah, on ne fait pas allusion à Moïse. Je ne sais pas si on est content, on est tellement familier qu'on ne voit pas. Hein. Mais il y aurait là, s'il n'y avait pas une raison très importante, une ingratitude monumentale. On ne fait pas allusion à Moïse à la sortie, au Seder de Pessah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pourquoi ? Pour pas qu'on croie que c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Or, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte grâce à Moïse. Bon, je crois que c'est suffisamment clair. Et c'est un problème contemporain. Il y a, je crois qu'on peut relier à cela, non, c'est pas qu'on peut, l'homme de Vilna dit Beferus, hein, que le verset qu'on cite, Anivelo Malach, Anivelo Shaliach, Anivelo Shaliach, Zemoshe Ramen. Moi et pas un envoyé, il s'agit de Moïse. Anivelo Malach. Alors, je sais pas si vous voyez à quel point nous sommes une génération très comparable à la génération de la sortie d'Égypte. Puisque le même problème se repose. Ceux qui vivent les événements et qui ne voient pas que c'est Dieu qui les dirige. Et regardez à quel point c'est étonnant ce qu'on lit dans la Bible, le récit dans la Torah de cette génération-là. La Torah nous raconte qu'ils ont assisté au fait que c'est Dieu qui intervient. Ils n'ont rien vu. Ils ont cru que c'était Moïse. Donc on peut se consoler. S'il y a des gens qui ne voient pas aujourd'hui, ils ne sont pas plus grands ou plus petits que ceux de la génération du désert. D'ailleurs, d'après la Kabbalah, je ne voudrais pas que vous ayez peur. Nous sommes la réincarnation, mamash, de la génération du désert. Il y a tous les personnages. Datan, Abiram, Shulamit Aloni. Vous rigolez, ils sont tous là. Regardez bien leur figure. Vous allez
les explorateurs.
Mais non seulement c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes profils d'identité. Il y avait la même mauvaise foi, il y avait la même sainteté parfois, pour les uns, pour les autres. Et je crois que je vais ajouter quelques phrases là-dessus, c'est un point important. On est doublement rassuré. Le fait que nous vivions la même histoire, ça nous rassure sur cette génération du désert, disons, de qui on pourrait se demander, qu'est-ce qu'il leur a appris à nos ancêtres, hein. On voit très bien à quelle situation, lorsqu'on est confronté, le peuple juif, le peuple hébreu réagit, il réagit en tant que peuple hébreu. Comme Moïse l'a défini, c'est le peuple élu, entre guillemets, à Shabbat Rabbanon. Il a défini Dor et Keshutarto, une génération et Keshutarto, je crois qu'en français on ne peut pas dire autrement que de gens tordus. Et Keshutarto, peut-être. Ankhsharolev, c'est rien. Peuple à la nuque rue, c'est raide, c'est rien. Banim loemumba, enfant en qui on ne peut pas faire confiance. Jusqu'à ce que grâce à Dieu on s'est inventé les bouches éponymes pour faire contrepoids. Mais au point de la Gemara dit, Loemunbam Abalbanim. C'est ça le problème d'Israël. C'est des banim. Afilou chez Loemunbam. Loemunbam Abalbanim. Vous voyez la tension qu'il y a entre ces deux définitions d'Israël. Et inversement, la génération contemporaine, on pourrait être désespéré. Qu'est-ce que c'est que ce peuple qui est en train de se suicider? Bon, vous suivez les jours, je ne sais pas ce qui se passe à la Knesset aujourd'hui. Mais ils sont en train de se suicider chaleureusement, avec joie. Mais, eh bien oui, eh bien ça, c'est nous, c'est nos ancêtres de la génération du désert. Enfin, grâce à Dieu, Dieu est grand. C'est pas parce que les Arabes le disent qu'on va se priver de le dire. En tout cas, pour revenir au sujet, pourquoi je vous parle de ça? Attendez, pourquoi je vous ai parlé de ça? D'où je suis sorti? Hein? Ah bon, oui, tant que je finis, Ken. Donc c'est une génération qui n'avait pas de problème économique. La manne, grâce à Moïse. Qui n'avait pas de problème militaire. Les Hanané Kavod, dont on parle à Soukhot. Les nuages de la gloire, qui étaient la protection du camp d'Israël, c'était Tzahal dans le ciel, Hanané Kavod, grâce à Aaron. Et puis l'eau, le puits, grâce à Myriam. C'est ces trois Amanélim. Okay? C'est-à-dire, c'est une génération qui n'avait pas les soucis d'une société humaine habituelle. Et par conséquent, qui était uniquement vouée à étudier la Torah sous la direction de Moïse, notre maître lui-même, pour se préparer à son histoire. C'est le cas particulier, Israël, d'une nation à qui la constitution a été révélée avant que l'histoire ne commence. Pour toutes les nations, la constitution s'élabore à travers 1000 ans d'histoire. Étudiez l'histoire de la constitution française. Elle s'élabore à travers une histoire de 1000 ans et de 2000 ans. Et en fin de compte, elle est ce qu'elle est. Tandis qu'Israël est un cas particulier, sa constitution lui est révélée avant que son histoire ne commence. C'est la Torah. Et c'est pourquoi il y a eu un stage avec Moshe Rabbeinu comme madrir pour apprendre le droit hébraïque avant même que l'histoire ne commence. Et donc, c'est une génération privilégiée. La seule comparaison que je peux faire, c'est ce qui se passe dans certaines yeshivot où on est à l'abri du problème économique pour pouvoir se consacrer à la Torah. Et c'est comparable à cette situation privilégiée de la génération du désert. Il y a, je crois, dans la sociologie générale, universelle, on s'est inspiré d'ailleurs des droits de la Torah, l'année sabbatique. Vous voyez à peu près, mais c'est une année sabbatique perpétuelle qu'ont eu cette génération du désert. Voilà pour ce problème. Mais c'est donc relié au fait que les manhigim de cette génération n'ont pas à être, ne peuvent pas, j'anticipe un peu ce qu'on va étudier, sont autres que les manhigim de l'histoire. C'est les manhigim de la préparation à l'histoire d'Israël. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc la seule hypothèse que le Midrash donne comme vraisemblable pourquoi Moïse ne devait pas rentrer avec Israël, c'est la suivante. Tout ce que Moïse a touché devient éternel, indestructible. La mida de Moshe, c'est Netzach. Netzach, Israël, le Mishaker. Et par conséquent, si Moïse entrait en Israël pour construire le temple aurait été indestructible. Et s'il avait faute de la part du peuple, c'est le peuple qui aurait été détruit. Donc pour sauver Israël, Moïse n'est pas rentré. Mais c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la génération du savoir, et cette génération du désert est appelée Dordéa. C'est la génération qui a été appelée à la connaissance. Qui se rappelle du verset? Le verset vous dit chaque Shabbat. Ne dites pas, vous n'allez pas la prière le Shabbat. Ata. La Dharat. Et cette génération a été appelée à la connaissance. On t'a révélé pour que tu saches. Tu as été appelé à savoir. Tu es une génération de la connaissance, et puis il y a la génération de l'action, de l'histoire qui commence avec Josué. Ce relais entre Moïse et Josué, on va apprendre la péripétie, c'est dans les eaux de Meriba, hein, mais dire que c'est en punition du fait que Moïse a frappé le rocher, c'est une hypothèse qui n'est pas retenue par les Romains, enfin par la Torah Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Vous avez compris? Quelle est ta question?
Oui, il y a une grande distinction à faire entre la génération du désert et notre génération, parce que ceux-ci sont en train d'Israël.
Attends, ils sont pas en train
d'Israël? Actuellement,
Ah, oui, très bien. Eh bien, c'est très bien, ces questions. Oui, c'est un bêta midrash où les élèves et les professeurs. Professeur, c'est pas moi. C'est le Rav Toledano, dont vous avez le texte dans la paracha de Kevitio, qui compare la génération du désert et notre génération. Et qui explique que nous sommes plutôt comparables à la génération qui est rentrée, celle des fils de la génération du désert. Seulement, malgré tout, ça va un peu plus loin dans ta. Ça, c'est une ancienne question, un enseignement du Rav Kook que je vais vous rappeler. J'ai déjà béni. Voilà. Regardez, quand on parle français, les bêtises qu'on dit. J'ai demandé, j'ai déjà béni. trouve. C'est le béni cité. Voilà, malgré tout, ça va plus loin. Le Rav Kook nous a expliqué, et je me rappelle qu'il a fait un céder de Pessah, même, que j'avais passé chez lui. Bon, il y avait tous les cadres de la yeshiva. Et donc, c'était plein de questions jusqu'à 6h du matin. Alors, il a expliqué à propos du rachat, la phrase qu'il y a dans la Mishnah de l'Agada, Veilu Hayasham, Lo Hayaligal. Vous savez, vous souvenez? Ça veut dire, Afata Akechina, le fils, si, et Tatsu Minakeval, Kafar Barika, Veilu Hayasham, Lo Hayaligal. Le rachat qui dit, qu'est-ce que vous faites et qui se met en dehors de la communauté? C'est ça le rachat. Regardez bien la définition que l'Agada donne chez Mishnah. Dans du rachat, celui qui est en dehors de la communauté. Le problème de notre temps, c'est qu'on ne sait pas où est la communauté. On sait pas, vous avez compris la vision? En dehors de quelle communauté? Est-ce que c'est clair? C'est pas l'impression que vous avez compris.
Si, c'est bien. On n'a pas l'impression qu'il y a une communauté à l'intérieur. Il y en a plusieurs dans la fête.
Oui, laquelle? Laquelle est le tzadik et laquelle est le rachat? Parce que la communauté reste rien. Mais quoi qu'il en soit, le texte a dit Vilwayasham Loyanigal. Et s'il avait été là-bas, cet enfant, Rachar, qui pose la question en disant Maravada Zotlachem, pour vous, c'est en dehors, hein? S'il était là-bas, au temps de la sortie d'Égypte, il n'aurait pas été délivré. Alors la foule avait enseigné là-bas, en ce temps-là, à la sortie d'Égypte, il n'aurait pas été délivré. Mais pour qu'elle. Dans notre délivrance, même les Rechaïm sont sauvés. Par conséquent, le fait que dans notre génération, il y a les Rechaïm, c'est pas étonnant, d'après les prophéties, qu'à la fin du dernier exil, c'est pas une question de mérite qui fait qu'on est dans la Géoula. C'est la loi des temps qui a joué.
Même aussi
Sarit. C'est
rien. Même aussi Sarit.
C'est un Sarit, c'est un... Comment vous avez vu Sarit.
Ou un rescapé.
Oui, de Joseph. Lui aussi, ça dit. Mais ça fait rien, il ne paie rien pour attendre. C'est-à-dire, rapporté au clan, il fait partie du clan. Mais s'il doit être jugé individuellement, que Dieu préserve. Parce que le jour du règlement de compte, donc, c'est une autre histoire. Alors, vous comprenez quel est le problème? Je vous donne la référence, c'est dans le Gemara de Sanhedrin, dans le Perek Chelek, à propos du verset d'Isaïe, Zacha Achishena, alors c'est Zacha Achishena, lo Zacha Beit. Je traduis. Il y a un verset d'Isaïe qui dit, en parlant des événements de la Géoula, de la fin des temps, maintenant, de la fin des trois exils, eh bien, c'est clair pour tout le monde qu'il n'y a que trois exils. Je crois que j'ai parlé déjà une fois de ça. D'où nous savons qu'il y a trois exils, il n'y a que trois patriarches. Vous avez. L'exil d'Égypte correspond à l'exil d'Abraham, à l'histoire d'Abraham, l'exil de Babel à l'histoire d'Isaac, et l'exil de Rome à l'histoire de Jacob. Et c'est à la fin de l'exil de Rome que Jacob reçoit le nom d'Israël, comme de notre temps, le peuple juif a reçu le nom d'Israël. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de quatrième exil, il y a d'autres sources, Bachot, Tifke, Balaïla, il y a deux fois la destruction du temple, et repas une troisième. Bon, tout ça c'est connu, mais à quel prix, hein? Le verset d'Isaïe dit, en son temps, je l'accélérerai. Be'ikta achishena. La Gemara demande si c'est en son temps que ça veut dire je l'accélérerai. Si je l'accélérerai, que ça veut dire en son temps. De façon même chat, ça veut dire, le temps venu, ça sera accéléré. Et ça peut se calculer avec les dates, hein, mais ce n'est pas le cours ce soir. Si vous voulez, on a le temps après, je reviendrai. Et alors, la Gemara dit, il n'y a pas de contradiction. S'il mérite, j'accélérerai, s'il ne mérite pas Israël, c'est en son temps, d'après dans l'honnête. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que, comme l'événement est arrivé d'après la loi des temps, il ne dépend pas du mérite. Ce qui dépend du mérite, ce n'est pas l'événement, c'est la manière dont l'événement se passe, à quel prix. Mais le fait qu'on ait été délivré de l'exil, c'est irréversible, et ça ne dépend pas du mérite, parce que la loi des temps a joué. Nous sommes à la fin du cinquième millénaire. Du sixième millénaire. 5 minutes. Voilà. Nous sommes à Erevan. Et c'est pour ça que les événements s'accélèrent. Tout ça, c'est forcément du vol de l'humain, d'ailleurs, mais la manière dont le Rav Kook l'a lancé. Ça veut dire qu'il y aurait deux thèses. Seul les tzadikim ont droit à Israël, ou c'est Israël, le peuple d'Israël, qui a droit à Israël. C'est deux thèses radicalement différentes. Ça me rappelle une histoire de curé. Vous allez comprendre vous-même le lien. Bien. C'est. Et comment c'est cette histoire, chien? Ah oui, c'était. Il y avait un chrétien un jour qui va voir son curé qui dit: moi, je veux pas aller au paradis. Je préfère l'enfer. Il dit: pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit: au paradis, il n'y aura que des curés et des bonnes soeurs. Je veux pas aller là-bas. Vous avez compris? Alors, on revient au sujet. Et encore, il a dit ça autrement, lui, il m'en fait peur. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on marche. Alors, prenez-vous. Voilà, je vais vous expliquer, comme d'habitude, le sujet que je vais étudier, parce que vous êtes maintenant habitués, dans chaque texte, il y a autant de sujets que de mots du texte. Voilà, c'est la question de la vache rousse. Je vous rappelle rapidement de quoi il s'agit. Celui qui s'était rendu impur par contact au cadavre, qui est le principe de toute impureté, même par proximité à un cadavre, je parlerai de ça un peu plus en détail, peut se rendre pur avec le bain rituel où on a aspergé avec les eaux où il y a les cendres de la vache rousse. Bon. Et alors, cette loi-là, la Torah va l'appeler Chukat HaTorah, le statut de la Torah. Le mot de Chok, féminin Chukat, dans l'hébreu moderne, Chukat c'est la constitution, mais Chok et Chukat, c'est le statut, avec un T à la fin. La loi intransigeante et de laquelle on n'a pas à chercher de raison, de laquelle on n'a pas à chercher ni causalité, ni finalité. C'est comme ça, des axiomes pour la mathématique. On ne cherche pas la raison des actions, les actions sont des actions. Et alors donc, la question est pourquoi cette mise en particulier, que celui qui est impur peut se rendre pur par le sang de la vache rousse, ça c'est au cas de la Torah. Quel rapport avec la notion de Torah qui dépasse infiniment une des mises de la Torah? Est-ce que c'est clair? Beaucoup de midrashim, beaucoup de commentateurs ont posé la question comme ça. Pourquoi le verset ne dit pas « Zot chukat atuma » ? Voici le statut du cas d'impureté. « Chukat atame » de l'impur. Pourquoi ça n'avait pas été dit « Zot chukat apara » ? Voici le statut, le chok de la para. C'est ce point-là que je voudrais étudier dans ce texte et qu'on va lire. Mais d'abord une petite introduction de vocabulaire. Nous avons en hébreu, pour dire les lois, la loi, énormément de termes. Et chacun de ces termes a une signification particulière. Je reprends une phrase de la Haggadah par exemple. Ma, a mitzvot, a chokim, a mishpatim, a sher tzivah Hashem. Il y a les mitzvot, il y a les chokim, il y a les mishpatim. D'une façon très générale, mitzvot c'est ben adam la makom, chokim c'est ben adam la havero, ça peut être l'inverse, mitzvot c'est ben adam la havero. Hokim, c'est ben adam la makom. Mishpatim, c'est ben adam la havero. C'est les jugements de la vie sociale, mishpatim. Je résume, non, je schématise un peu le sujet sur deux termes, hok et mishpat. Et alors, on a l'habitude de dire que le hok, c'est une mitzvah dont on n'y a pas à chercher de raison. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a un équivalent dans l'expression traditionnelle, xerat akatuz. Le texte a décidé comme ça. Xerat amener. Le roi a décidé comme ça. Xéra. Comment traduire ça, xéra, en français, un décret. C'est décrété comme ça. Je cherche pas comment. Et puis, alors que Mishpat, c'est une règle dont on peut trouver les considérants, les tenants et les aboutissants, parce que Mishpat, c'est un jugement. Voilà, en schématisant les deux explications. Or, c'est très difficile. Tant pour Mishpat que pour Chok. Mais surtout pour Chok. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'il y a des dispositions de la Torah, les Chokim, les Chokot, l'ignorance, mais enfin, ça va un peu dans le même sens, qui serait à la limite arbitraire, purement discipline, mitzvot, anashim et mada, comme dit le prophète, de pratiquer les mitzvot comme on pratique une discipline, que ça n'a pas de signification autre que le fait que ça nous soit demandé, que ça n'a pas de signification autre que le fait qu'il faille le faire. Ça ne va pas avec la Torah. La Torah, c'est la révélation de la sagesse que Dieu nous révèle pour la vie dans le monde qu'il a créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Chok n'a pas de signification. Je ne dis pas, n'a pas de sens, n'a pas de signification. J'en prie que vous avez dans la paracha de Bechukotai, vous verrez vous-même la référence. Tout au début de la paracha de Bechukotai, vous verrez Rashi. Im Bechukotai Telechou. Si vous suivez Bechukotai. Et que vous les observez et que vous les accomplissiez, et alors il y a toutes les bénédictions. Et Rachid dit que c'est une berkotai tenechou. Ne va pas croire que c'est si vous suivez mes commandements, si vous les appliquez, parce que ça a été dit par la suite. Ushmartem vaasitem. Donc, une berkotai tenechou, c'est tihu amelim batorah. Que vous travaillez dans la Torah dans le sens d'étudier. Que vous étudiez la Torah. Et étudier la Torah, c'est sous quelle rubrique? Chukotai. Donc, ça veut dire, apprenez qu'est-ce que ça veut dire. Et je veux dire, si on doit déduire une conduite, littéralement une casuistique, chaque cas est un cas dont on doit avoir la loi. C'est la casuistique, c'est la science des cas. Si on doit déduire une casuistique de loi dont on ne comprend pas la signification, on risque de déduire des règles fausses. Si on ne comprend pas le sens des lois, comment conclure pour telle ou telle situation de l'histoire, telle situation de la vie? Je vous donnerai une comparaison. Imaginez un garçon de laboratoire ignorant. Est-ce qu'on peut confier une ordonnance à un garçon de laboratoire qui ne comprend pas de quoi il s'agit dans l'ordonnance que le médecin va lui écrire? Il faut se méfier des garçons de laboratoire qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Ça me rappelle une histoire de l'armée. Vous savez que dans l'armée, il y a des ordonnances. Une fois, une ordonnance qu'on a envoyée à la pharmacie, il est revenu. Il dit, il y avait écrit ici, on exécute les ordonnances. Je me rappelle, j'ai fait l'armée. Ici, on exécute les ordonnances. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, cette idée qu'on peut pas comprendre ce que la Torah demande, c'est une idée difficile. Alors c'est pourquoi il faut aménager tout ça. Il y a un midrash qui dit que le roi Salomon, qui était le plus sage d'Israël, a cherché à comprendre le sens de la vache rousse et il n'est pas arrivé. À Marty, comme on met le verset, « Ahakema veir kamimeni », c'est ça?
Oui, ça comprend. Comme tu as dit.
Oui. Le roi Salomon dit, j'ai dit, je vais en apprendre la sagesse, et elle est trop loin de moi. Mais ce Midrash ajoute, c'est pour expliquer que Moïse seul la comprenait. Alors Moïse la comprenait. Je ne sais pas si c'est clair, ce sujet. Donc, il y a ici un problème que nous allons étudier. En fait, c'est que nous sommes très, 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 très bons en capacité de compréhension des axiomes de la Torah. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sens. Je vous donne un exemple. Ce que je voudrais évacuer, c'est cette idée qui est très sadducéenne, que la mitzvot de la Torah, il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut obéir parce que ça n'a pas d'autre sens que le fait que ça nous ait été demandé. C'est une attitude très louable du point de vue de la fidélité qu'on demande à ceux qui sont incapables de la connaissance. Mais ceux qui sont incapables de la connaissance, ce n'est pas à eux qu'on confie l'élaboration du code. On confie l'élaboration du code à ceux qui comprennent de quoi il s'agit. Sinon, on va déduire un code faux. Et c'était le cas des Sadducéens. Est-ce que c'est clair, c'est-à-dire, on va se condamner à pratiquer une Torah fausse parce qu'on va confier au raisonnement la déduction, l'induction, comme on fait dans ce cas-là, alors qu'on ne sait pas ce que signifie la règle. Vous avez vu la catastrophe. Une catastrophe qui nous a atteints quand les Romains ont interdit la smicha. C'est un peu la question que je vous ai dans le rachat de quelle communauté. Jusqu'à ce temps-là, le temps des Romains, on savait à quel haram il fallait s'adresser pour savoir ce que la Torah dit. Le haram en question n'allait pas expliquer le sens de ce qu'il nous disait. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne procédait pas à ce sens-là. De la même manière que le médecin va pas vous expliquer le fonctionnement du tube digestif avant de vous donner un cachet d'aspirine. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas lui comment ça fonctionne. Vous avez choisi d'avoir qu'à l'aspirine parce que personne ne sait pourquoi l'aspirine guérit. Je ne sais pas si vous savez. C'est encore le mystère des trop fautes. Et c'est vrai, personne n'a compris ce miracle de la découverte de l'aspirine. C'est un médicament extrêmement important. Et donc, il parle. Je ne vais pas rentrer dans ce problème, c'est un problème passionnant d'ailleurs. On a remarqué une chose, celui qui a inventé l'aspirine a fait plus de bien à l'humanité que des millions de moralistes qui parlaient du bien et du mal. Parce que si on n'a pas de tête, on ne peut pas étudier. Bon, je reviens au sujet. Mais je sais pas ce que j'ai avec la pharmacie aujourd'hui. Pourtant, j'ai acheté mon ordonnance. C'est quoi cette ordonnance? C'est une ordonnance. Et alors, quand je parlais, la notion de Ruka, on entend la smicha. Alors, on savait qu'est-ce que c'était la smicha. À la fin de sa vie, le maître de la génération disait, lui, ça venait de haut en bas, le maître disait, après moi, de tous mes élèves, c'est celui-là qui me suit, qui me continue. Aujourd'hui, comment ça se passe? On fait des élections au consistoire. Comme on est les grands rabbins, c'est pas les grands rabbins qui lisent de leurs successeurs, c'est les simples fidèles qui n'y connaissent rien qui vont lire leurs grands rabbins. Je ne sais pas si vous voyez le niveau kafkaïen. C'est d'ailleurs comme ça qu'on élit les grands rabbins d'Israël. C'est des députés dont les deux tiers sont athées qui lisent leurs rabbins. Moi j'entends pas. Encore lui, il est pieux, je suppose. Bon, enfin, ça c'est l'histoire juive. Je me rappelle, je vous raconte une anecdote. La première fois que je suis arrivé à Jérusalem, et j'étais fasciné par la devanture d'un photographe. Il y avait la photographie d'un diplôme de l'école rabbinique, signé d'ailleurs par David de Rothschild, pas par David de Pau, par son grand-père de Rothschild, qui garantissait l'élection d'un grand rabbin, je ne sais plus lequel. Et il y avait le titre du diplôme, fin d'études rabbiniques, à l'âge de 22 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Fin d'études rabbiniques garantie par Rothschild. C'est comme ça qu'on fait les grands. On reste, c'est pas moi. Étonné. Alors, le photographe en question avait mis ça à la vitrine comme une des curiosités de l'époque. Je reviens au sujet. C'était quoi le sujet que je parlais? Et alors, donc c'était le haram de ma génération, le daïr de ma génération, qui avait beaucoup d'élèves. Mais lui savait lequel d'entre eux était capable de lui succéder comme Dayan. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas établis, mais celui qui était capable de dire, étant donné ce qu'est la loi, dans ce cas-là, voilà ce qu'il faut faire. Les Khamim n'ont jamais été en controverse sur la loi. Ils sont en controverse sur l'histoire, sur la situation historique pour laquelle il fallait faire parler la loi. C'est-à-dire, si le temps est gris, voilà ce que dit le verset. Si le temps est bleu, voilà ce que dit le verset. C'est là qu'il y avait la controverse. Est-ce que je vois gris? Est-ce que je vois bleu? Et vous savez très bien à quel point les gens ne savent pas voir de quoi il s'agit. L'exemple que je donne habituellement, c'est des journalistes. Le même événement, vous prenez trois journaux, il y a quatre opinions. Vous voyez ce que je dis. C'est très difficile d'être témoin de vérité. Et alors, c'est le problème de la controverse des... Alors c'est le maître Qui sait lequel de ses élèves s'est diagnostiqué, non pas le sens de la Torah, ils ont le même, mais qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? C'est là-dessus qu'est la controverse. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train d'expliquer là? Parce qu'il y a une grave raison de croire qu'on veut faire dire à la Torah n'importe quoi, c'est pas vrai. Tous les hachamim qui sont controversés sur une halakha ont le même verset. Si vous voulez, je peux vous en donner la démonstration. On prend une gemara et on voit qu'il y a deux opinions sur un sujet, et je vous démontrerai que les 12 rabbins avaient le même sens du verset. Sur quoi ils étaient en controverse? Sur l'événement historique à propos duquel il fallait légiférer. Vous voyez la différence? Et ça, beaucoup de gens de bonne foi sont persuadés que les hachamim sont controversés sur le sens du verset. C'est faux. Ou bien ils connaissent le verset, ou bien ils changent de métier. Qu'est-ce que ça veut dire que le verset veut dire? Ces expressions, on peut faire dire à la Torah n'importe quoi, suivant ce qu'on a dans la tête, c'est scandaleux. Vous voyez ce que je veux dire? Et Dieu sait qu'on entend ça. Et encore de la Torah, c'est pas difficile de voir qu'est-ce qui est écrit. Bien que c'est une chorma pour elle-même. Du Talmud, quand les gens disent, ah, du Talmud, on peut tirer ce qu'on veut. C'est faux, c'est pas vrai. Et puis de toute façon, quelles que soient les opinions, quand la halakha le ma'asé a été décidée, alors on pourrait comprendre comme ça si l'événement était comme ça. Et c'est Torah. Mais voilà, l'événement n'est pas comme ça. L'événement est d'après ce qu'il y a dit halakha comme celui-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Je vous donne un exemple dans les problèmes contemporains que nous vivons. Nous avons entendu parler du Rav Avital. Oui.
Avital qui convertit des...
Non, non.
Mitaï.
Amital de Gush Etzion.
Oui.
Neman. Et alors, bon, ce qui lui est arrivé dans son histoire personnelle, il faudrait un quart d'heure pour le raconter. Mais je le connais, ce Rav, qui a été, non pas un élève vraiment, mais un ami de la Yeshiva du Merkaz Arab. Enfin, c'est pas n'importe qui peut dire qu'il est élève du Merkaz Arab, ou surtout élève du Rav. Bon, quoi qu'il en soit, il y a eu un psak halakha ces derniers temps, des rabbins orthodoxes américains décrétant sur la halakha, on n'a pas le droit de rendre des territoires de rendre, de donner, de vendre aux Arabes. Et alors on a interrogé la radio, le Rav Avital, question de ce psak. Il dit c'est un faux problème, c'est pas une question d'halakha. Ma seule question d'halakha, c'est de savoir si les accords d'Oslo, c'est bon pour Israël ou si c'est pas bon pour Israël. Alors si c'est bon pour Israël, on peut donner les territoires, c'est pas une question d'halakha. Vous voyez le raisonnement jésuite, j'ai pas dit fabriquer. Alors vous voyez, où est le problème? Le problème, c'est qu'il n'ose pas dire que la Torah dit on ne rend pas les territoires, ça c'est Torah. Hein? Il dit le vrai problème, c'est le diagnostic politique, le diagnostic historique. Est-ce que les accords d'Oslo, c'est bon pour Israël ou c'est mauvais pour Israël? Et une erreur là-dessus, c'est plus grave qu'une erreur de lecture. Parce qu'une erreur de lecture veut dire que tu n'es plus rabbin, tu ne sais pas lire, tu n'es pas rabbin. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Tandis qu'une erreur de diagnostic, qu'est-ce que c'est unique ou qu'est-ce que c'est pétain, ça c'est grave. Vous voyez ce que vous avez compris? Voilà quel est le problème. Jamais les rabbins, enfin les vrais rabbins, n'ont été en controverse. Qu'est-ce que dit le verset de la Torah de Moïse? Ils ont été en controverse. Qu'est-ce qui se passe qu'on fasse réagir le verset? Si ceux qui ont fait du Talmud savent ça. Mais pour ceux qui n'ont pas fait de Talmud, ça vaudrait la peine, je vous promets toujours des petits cadeaux comme ça, on n'a jamais le temps. Ça vaudrait la peine qu'on ouvre une gemara et que vous voyez ça vraiment, pour au moins démystifier cette espèce de mensonge qu'on peut faire de n'importe quoi au verset. Que les rabbins ne sont pas d'accord sur ce que dit le verset, c'est faux. Est-ce que c'est clair? Réagissez un peu.
C'est la question de la roquine, c'est de la passion. C'est-à-dire que comme tu as très bien expliqué, le verset, tout le monde comprend, enfin, si les rabbins, tout le monde comprend c'est qu'un verset. Mais le problème...
Vous n'avez pas remarqué quand vous étudiez que quand on vous a fait, on vous a montré quel est le sens du verset, la réaction est toujours, ah, c'est ça que ça veut dire, Nahon ?
Voilà.
Ben c'est ça le métier du rabbin, c'est de savoir ce que ça veut dire, c'est tout. Alors,
mais dans le temps, la Gemara, je dis un peu la Gemara, c'est enfin, je suis un nouvel Amaret, je dis un petit peu.
Ne sois pas trop modeste.
J'avais mon.
Ouais, un peu modeste.
il a écrit un dernier livre là-dessus qu'un jour je te passais.
Qui ça?
Mon beau-père.
Ah bon?
Oui, ça s'appelle la Okinta, c'est-à-dire le cas
C'est-à-dire, il faut diagnostiquer que quand on analyse une Mishnah, il faut voir à qu'est-ce qui s'est passé exactement.
À quelle raison.
Et d'après, parce que moi j'analyse d'après ce qui s'est passé là. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé d'une autre façon. Donc il faut, à la limite. Mais
ceci dit, le vrai problème, c'est le verset qu'on va citer, qu'est-ce qu'il veut dire. Comprenez, les rabbins du Talmud. Ce n'est pas des petits juifs avec un dictionnaire qui cherchent à savoir ce que le verset veut dire. Hein. Le rabbin du Talmud, c'est Moïse qui dit le verset. Et ceci dit, quand ils sont en étude, c'est à partir du fait que ça va de soi que le verset ils connaissent. Ils ne viennent pas nous enseigner ce que veut dire le verset. Étant donné ce que dit le verset, et ça va apprendre chez ton rabbin, comment on déduit la loi. Vous avez compris ? Pourquoi ? Parce qu'elle est la variante. Elle n'est pas le verset de la variante. La variante, c'est l'histoire. Dans l'histoire, comment sont les choses. Vous comprenez le problème. Par exemple, le véritable diagnostic, c'est pas du tout qu'est-ce que la Torah dit du Golan. La Torah dit au clair du Golan. Golan, c'est un mot hébreu, ça suffit. Mais, et puis, vous allez faire de l'archéologie, c'est plein de juifs là-bas, d'il y a 2000 ans, sur le Golan. La véritable controverse, c'est quelle est la valeur du Golan pour le sort d'Israël. Mais que la Torah a dit que le Golan c'est Israël, ça, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si c'est clair. Et alors celui qui prend le pari de Munich, eh ben, il a pris le pari de Munich. Et qui ne nous raconte pas qu'on peut faire dire à la Torah le pari de Munich. Voilà le fond des choses, c'est ça. Moi j'ai été élevé à une école où on a appris il n'y a qu'un sens à la Torah. Il n'y a pas à trois ou quatre. Et puis tout ça c'est des légendes. Il y a une manière de chanter juste et il y a des fausses notes. Et chaque fois que quelqu'un qui fait une fausse note dit c'est ma tradition, il faut lui dire c'est une fausse note, ta tradition. Vous avez compris ce que je dis. Et il y a mille manières de mourir, il y en a une seule de naître. Parce que, la comparaison, ça veut dire comment on est par le Saint-Esprit. On est de sa mère. Ça, c'est la naissance. La mort, c'est Dieu préserve. C'est autre chose. Donc vous avez compris, il y a une seule vérité, il y a toutes les manières de se tromper. Ça, il faut refuser ça. Ce qui est entre Hillel et les chamailles, eh bien, c'est pas du tout qu'est-ce que le verset nous dit. C'est dans quel temps nous vivons. Est-ce que nous vivons encore dans le temps d'Olam Hazé ou déjà dans le temps d'Olam Haba. La halakha qui est Olam Haba, c'est Bet Shamay. La halakha qui est Olam Hazé, c'est Bet Hillel. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette controverse? Ça apparaît de la mystique. C'est la halakha comme Bet Shamay, c'était l'ancienne halakha au temps de la révélation. La halakha comme Bet Hillel, c'est la halakha à partir du moment où la révélation a cessé. Je pense que c'est clair ce livre. Je me rappelle une minute, je dis que c'est tout le temps de Torah, ça l'a ici.
Une fois.
On avait des livres anciens. Il y avait Bet Hillel Omer, Bet Shamay Omer, Bet Hillel, il y avait Bet Hillel, Bet Shamay et Bet Hillel. Et nous les gosses, on lisait Baruch Hu Omer, Baruch Shem Omer. Et on ne savait pas que cette erreur-là, c'était la vérité dans la Kabbalah. Yahu, Shmo, Echad. Bon, réfléchissez pour vous. Et alors, c'est tout le problème du mariage et du divorce. Quand il et elle se chamaillent. Là, il y a une divorce. Bon, qu'est-ce que vous avez une question.
Qu'est-ce que c'est que Shivim Panim Patora?
C'est tout à fait autre chose. Shivim Panim Patora, Shivim Panim la Torah, ça veut dire, on peut éclairer d'ailleurs ce que je viens de dire par cette formule, mais c'est tout à fait autre chose. Ça veut dire qu'il y a, à la racine du problème, il y a un visage de la Torah qui correspond à chacune des nations. Shivim Umot, Shivim Lashon, Shivim Panim. Mais de manière plus générale, Shivim, c'est la multiplicité. Ça veut dire, étant donné qu'il y a une multiplicité de situations sociopolitiques possibles, alors on peut déduire de la Torah.